On va ouvrir la parole de Dieu, mes amis. Et ce matin, j'aimerais introduire ces moments en vous posant, en nous posant une question. Mon frère, ma sœur, comment va ta relation personnelle avec Dieu? Voici la question. Mon frère, ma sœur, comment va ta relation avec Dieu? Et cette question, je crois qu'elle est importante, elle est pertinente, car avoir une relation personnelle avec Dieu, j'ai envie de dire, est primordial. C'est vital pour chacun des enfants de Dieu. C'est un fait, c'est indéniable. Ce que Dieu désire, c'est d'avoir une communion personnelle avec chacun de ses enfants. Et si quelque part Dieu, dans sa souveraineté, a créé l'homme, et je précise, l'homme à sa ressemblance, c'est quelque part, c'est qu'il voulait, avec l'homme, avoir une relation personnelle. C'est certain, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, avaient cette communion, j'ai envie de dire, quotidienne avec Dieu. D'ailleurs, la Bible nous le précise dans Genèse chapitre 3, que Dieu parcourait le jardin, et lors de la brise du soir, certainement, Dieu était à la recherche du cœur d'Adam et du cœur d'Ève. Mais vous le savez tous, à cause du péché, l'homme a été séparé littéralement de Dieu. Et sa relation avec ce dernier en fut endommagée, fut interrompue. Mais bonne nouvelle, et nous l'avons chanté au travers des cantiques, le sang précieux de Jésus sur la croix a été assez efficace pour restaurer cette relation, pour nous réconcilier avec Dieu. Et j'aimerais vous donner un premier verset, c'est Colossiens chapitre 1, les versets 19 à 20, qui confirment ce que je suis en train de vous dire. Nous lisons ensemble Colossiens chapitre 1, versets 19 et 20. « Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en Jésus, et il a voulu, par Jésus, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant quoi ? En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix, que Dieu soit béni. » C'est pour cela qu'au cœur même de notre culte, nous rappelons cette vérité au travers de ce pain, mais surtout de ce vin qui nous rappelle que le sang de Jésus-Christ a coulé. Béni soit Dieu pour le sang pur du Fils de Dieu, qui a été assez efficace pour restaurer ce qui avait été détruit par le péché. Un autre passage aussi qu'on pourrait lire et qui confirme ces déclarations, 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 19. « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Alors, le Seigneur, il ne met jamais la charrue avant les bœufs. Il y a d'abord l'étape d'être réconcilié d'une manière verticale avec Dieu pour après prétendre vivre la réconciliation ou annoncer la réconciliation d'une manière horizontale. Ainsi, par Jésus-Christ, notre Sauveur et aussi notre Rédempteur, nous pouvons bénéficier d'une relation personnelle avec Dieu. Relation qui est d'ailleurs appelée à perdurer jusque dans la vie éternelle. Alors, mon frère, ma sœur, où en es-tu dans ta relation, je précise, personnelle avec Dieu? Où en es-tu dans ton intimité avec Dieu? Est-ce que chaque jour, dans le secret de ton cœur, tu as ce contact avec Dieu, ton Sauveur? Dieu te connaît-il? Et toi, connais-tu Dieu au travers de ta relation avec Dieu? Alors peut-être certains, ce matin, pourraient me poser la question, mais c'est quoi avoir une relation personnelle avec Dieu? J'aime bien détailler, expliquer les choses d'une manière très simple. Avoir une relation personnelle avec Dieu, c'est entretenir évidemment une communion vraie, une communion sincère avec Dieu chaque jour de notre vie terrestre. Avoir une communion avec Dieu, c'est veiller au quotidien à demeurer en Jésus et en retour que Jésus puisse demeurer en nous par son amour, par sa parole. Avoir une relation personnelle avec Dieu, c'est aussi entretenir chaque jour une communion avec Dieu par le biais de la prière, mais aussi par le biais de la méditation de sa parole. Je les appelle les deux P, parole et prière. Ce sont également les deux pieds spirituels que tout chrétien doit avoir. Et si, eh bien, je décide, eh bien, d'en exclure un, eh bien, vous comprenez que ma vie chrétienne, eh bien, risque d'être bancale. Et Dieu ne veut pas cela. Trop de chrétiens négligent ou ne sont pas conscients de l'importance d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Pourtant, c'est par ce moyen que nous pouvons être forts face aux attaques de l'ennemi. Malheureusement, quelquefois, l'ennemi trouve des failles dans la vie, dans les familles chrétiennes, tout simplement parce que eh bien, ces mêmes chrétiens ne sont pas au beau fixe quant à leur relation avec Dieu. Quand j'ai une relation avec Dieu, eh bien, il me permet dans cette communion de colmater toutes les brèches par lesquelles l'ennemi, tel un serpent, pourrait eh bien, s'infiltrer dans nos vies. Par le moyen de la relation personnelle avec Dieu, notre foi s'affermit. Et bizarrement, nos doutes, nos craintes, nos peurs s'enfuient. Par ce moyen, nous pourrons faire des progrès dans la connaissance de Dieu et la connaissance de Jésus-Christ. C'est tellement important. Jésus va le dire. La vie éternelle consiste à connaître Dieu, mais aussi celui que Dieu a envoyé. Et plus je vais connaître Dieu, plus ma confiance va grandir en lui et je serai inébranlable. Parce que l'ennemi pourra rugir devant moi, mais je sais une chose, c'est que l'ennemi a été terrassé il y a 2000 ans de cela par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Comme cet homme qui racontait ce témoignage, un homme de Dieu, je ne me rappelle plus son nom, il dormait et puis à un moment donné il a été réveillé au beau milieu de son sommeil et une ombre était là au milieu de sa chambre et ouvrant les yeux il dit « Ah c'est toi Satan » et puis il s'est rendormi. Ce chrétien, il savait exactement quelle était la position de Satan, mais quelle était aussi sa position. Frères et sœurs, nous sommes en Christ et l'ennemi ne peut pas nous toucher. Mais encore faut-il le savoir. Ma relation personnelle me permet de connaître intimement mon Seigneur et mon Dieu. Paul a dû faire un constat qui est alarmant concernant certains chrétiens de l'église de Corinthe. Et je vous encourage à pouvoir lire avec moi ce constat. Et aussi cette exhortation, 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 34. Je vous laisse le temps de le chercher pour l'avoir aussi devant vos yeux. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 34. Il nous est dit la chose suivante. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Et comprenez que l'apôtre Paul, en écrivant cette exhortation, mais aussi ce constat, qu'il avait le cœur serré, attristé. Il va dire « Quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. » Et si Paul a adressé de telles paroles à certains chrétiens de l'église de Corinthe, c'est parce que ces derniers ne prenaient pas le temps d'entretenir dans leur quotidien une relation personnelle avec Dieu. Je voudrais vous donner... au travers de la parole de Dieu, au travers des personnages bibliques, l'exemple de deux rois. Deux rois qui se distinguent parce que l'un justement a choisi d'avoir une relation avec Dieu et malheureusement l'autre a choisi de ne pas entretenir cette relation avec Dieu. Vous savez de qui je veux faire mention ? C'est Saül et David. Ils ont été tous les deux choisis par Dieu pour régner sur tout le peuple d'Israël. Et commençons par exemple par le roi Saül. Saül n'était pas rien. Saül était cet homme qui était ni plus ni moins le reflet de l'attente du peuple d'Israël, d'avoir un peuple comme les autres nations aux alentours. Et Dieu leur a donné un roi selon leur cœur, selon les désirs de leur cœur. La Bible nous dit que Saül se démarquait de tous. Beau jeune homme, très grand. La Bible nous dit qu'il s'élevait d'une tête de tous les autres. C'était un général de Gaulle de l'époque. Oui, oui. Un homme qui a expérimenté des choses extraordinaires, puisqu'au début de sa vie, il croise le prophète Samuel. Il en est littéralement transformé. Quand il tourne le dos au prophète Samuel, la Bible nous dit que Dieu lui donna un cœur tout neuf. Un homme qui a expérimenté aussi la puissance du Saint-Esprit, parce qu'on l'a entendu prophétiser avec le reste des prophètes. Et il faut croire qu'au départ, il avait une relation personnelle avec son Dieu. La preuve. 1 Samuel chapitre 14, verset 35 nous dit la chose suivante. Oui, cet homme avait bien commencé. La Bible nous dit « Saül bâtit un autel à l'Éternel ». Ce fut le premier autel qu'il bâtit à l'Éternel. Il prit l'initiative, personnellement, de créer, de nouer contact avec son Dieu. Et durant cette période, Dieu lui donnait victoire sur tous ses ennemis. On peut le lire un peu plus bas au verset 47. Il nous est dit, 1 Samuel chapitre 14 et le verset 47. Après que Saül eut pris possession de la royauté sur Israël, il fit de tous côtés la guerre à tous ses ennemis. Et ses ennemis sont cités à Moab, aux enfants d'Ammon, à Édom, au roi Tsoba et aux Philistins. Et tenez-vous bien, partout où il se tournait, il était vainqueur. Partout où il se tournait, il était vainqueur. Frères et sœurs, si nous veillons à entretenir notre relation personnelle avec Dieu, nous, partout où nous allons nous tourner, nous serons vainqueurs. Le diable voudra essayer de nous interpeller, nous allons nous tourner vers lui, on sera vainqueurs, parce qu'on le fera trembler de peur. Non pas que nous avons une quelconque force, mais parce que nous possédons celui qui est le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Mais je me pose la question concernant Saül. Avait-il le temps d'entretenir chaque jour sa relation avec Dieu ? Il faut savoir que les rois de l'époque, ils étaient tenus d'avoir une copie de la loi, donc de l'Ancien Testament, à leur côté pour non seulement la méditer, mais aussi à bien chercher à la mettre en pratique chaque jour dans sa vie. Je me pose la question, est-ce que Saül avait négligé à bien ces choses ? Certainement, car dans le chapitre suivant, nous voyons Saül qui est en train de pécher contre l'ordre que Dieu lui avait demandé de pouvoir dévouer par interdit tout ce qui appartenait à ses ennemis, et il a désobéi. Et à cause de sa désobéissance, c'est le prophète Samuel qui a pris la décision de se séparer de lui. Et on peut lire très rapidement, on ne peut pas tout lire, 1 Samuel, chapitre 15, verset 27, ce qui se passe dans cette rencontre entre Samuel et Saül. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Et nous lisons un peu plus bas, je crois, au verset 30. Oui, au verset 30. Saül dit encore, « J'ai péché maintenant. Je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. » Moi, ce qui m'inquiète, ce qui m'intrigue dans tout ce verset, c'est juste ce mot, « ton ». C'était plus son Dieu. C'était le Dieu de Samuel, du prophète Samuel. Et ce que je constate avec vous, c'est que Saül n'avait plus de communion personnelle avec Dieu. Ou en tout cas, il l'avait perdu, s'il l'avait au départ. Car il ne consultait Dieu qu'à travers le prophète Samuel. J'aimerais que nous puissions prendre en compte cette réalité. Nous pouvons aussi, tout comme Saül, avoir une relation avec Dieu, mais par personne interposée. Certains chrétiens n'entretiennent que peu ou pas du tout de relation personnelle avec Dieu. Mais par contre, ils vivent leur relation avec Dieu qu'à travers les autres. Certains, c'est à travers le pasteur. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Je suis votre serviteur, Dieu m'a placé là pour vous apporter le conseil du Seigneur, mais je ne suis pas Dieu, je ne suis pas celui qui vous a sauvé. Et regardez bien, certaines personnes, au lieu de se confier en Dieu, au lieu de développer leur relation personnelle avec Dieu, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se confient en l'homme. Ils misent en l'homme. Et la Bible dit « Malheur à l'homme qui se confie en l'homme, mais béni soit l'homme qui se confie en Dieu. » Il y a eu des tumultes du temps de l'apôtre Paul quand certains prenaient parti. Moi, je suis d'Apollos. Moi, je suis de qui ? De Paul. Et l'apôtre Paul va remettre les pendules à l'heure et va leur dire, mais celui qui vous a sauvé, c'est Jésus. Je vous ai attaché à un seul sauveur, à un seul Seigneur, c'est Jésus. Frères et sœurs, ce que j'ai envie de vous dire, ce que j'ai envie de nous dire, attachons-nous au Seigneur. C'est lui notre sauveur, c'est lui notre berger. Avant, c'est vrai, on peut avoir des modèles, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, on peut avoir des exemples, on peut suivre l'exemple de certaines personnes. Mais notre exemple par excellence, c'est qui ? C'est Jésus. Ce n'est pas un quelconque prophète, ce n'est pas votre conjoint, ce n'est pas non plus votre frère ou votre sœur dans la foi. Et c'est même très dangereux. C'est très dangereux, frères et sœurs. Ce qui est important, c'est d'avoir une relation personnelle, véritable, sincère, réelle avec notre Seigneur. Pour poursuivre concernant Saül, regardez ce qui lui est arrivé par la suite. Hein, Samuel chapitre 28, on tourne quelques pages. Hein, Samuel chapitre 28 et les versets 6 et les versets 7. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Juste s'arrêter là. Pourquoi n'a-t-il pas continué à persévérer? Vous savez, Dieu ne repousse personne. Et si à un moment donné, on a coupé une relation avec Dieu, Dieu, ses bras ouverts, est prêt tout à nouveau à nous accueillir. Pourquoi n'a-t-il pas continué? Je vous assure, si Saül, de tout son cœur, s'était repenti à ce moment-là, Dieu lui aurait fait grâce. Mais voilà ce que dit le verset 7. Et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. » Et ses serviteurs lui dirent, « Voici à Endor, et il y a une femme qui évoque les morts. » Voyez-vous ce qui s'est passé? Comme il n'avait plus de relation personnelle avec Dieu, immanquablement, il a trouvé à entrer dans une autre relation. Mais cette relation-là, elle est coupable, elle est abominable. Et vous savez ce qui lui est arrivé par la suite? Eh bien, Saül est mort, et que Dieu nous garde d'une telle fin. Car la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que ce commencement. Et notre fin sera merveilleuse si nous maintenons, si nous entretenons cette relation personnelle avec Dieu. Alors laissons de côté donc notre ami Saül. Regardons maintenant le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il a été le deuxième roi que Dieu a choisi pour régner sur le peuple de Dieu. Et contrairement à Saül, David, lui, entretenait, j'ai envie de dire jour après jour, une relation personnelle et profonde avec Dieu. Quand on regarde les nombreux psaumes qu'il a écrits, est-ce que vous savez le nombre de psaumes que David a écrits? Plus de 70, pour être plus exact, 73 psaumes. Quand on lit ces 73 psaumes, c'est indéniable. David avait une relation personnelle avec Dieu. Ces psaumes sont le reflet de la qualité de la relation profonde qu'il avait avec son Dieu. Et à travers ses écrits, David désire nous révéler de quelle manière il entretenait une relation personnelle avec son Dieu. Je vous donne juste quelques exemples et je vais terminer par cela. Par exemple, David apprenait à écouter Dieu. Quand on lit Psaume chapitre 143 et le verset 8, cela nous est confirmé. Il nous est dit, « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. » David exprime au travers de ce psaume le désir ardent de son cœur de pouvoir entendre, alléluia, la voix de son Dieu. Fais-moi entendre ta bonté. Et pas seulement que la bonté. Il faut savoir que le mot bonté ici est la traduction d'un mot hébreu qui s'exprime de la façon suivante, kessed. Et le mot kessed ne veut pas dire seulement bonté, mais le mot kessed peut aussi se traduire par les mots grâce, miséricorde, bienveillance, amour, compassion, clémence, fidélité. L'hébreu est riche, hein ? Et le français, quelquefois, ne nous le rend pas bien. Fais-moi entendre ta bonté. Finalement, fais-moi entendre ta grâce, ta miséricorde, ta bienveillance, ton amour, ta compassion. Et nous aussi, nous pouvons aussi calquer l'exemple de David. Seigneur, fais-moi entendre ta bonté. Et lorsque nous nous appliquons dès le matin à s'exercer à entendre la voix de Dieu, alors Dieu nous accorde toutes ces grâces que je viens de citer. Frères et sœurs, appliquons-nous à entendre la voix de Dieu. Vous savez ce que dit la Bible? Jésus a dit, je suis le bon berger. Et lorsqu'il parle, le bon berger, ses brebis reconnaissent, entendent sa voix. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils la suivent. Je suis en relation avec Dieu. Si je sais écouter la voix de Dieu, si je m'exerce à écouter la voix de Dieu. Un deuxième exemple que j'ai retenu pour vous, c'est que David cherchait Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Quand on lit le psaume 63, Eh bien, on en est convaincu du verset 1 jusqu'au verset 8. On va lire très rapidement ce qu'il est dit de notre ami David. Je vais le lire donc sur ma propre Bible. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Il soupire après toi où ? Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents. Et avec des cris de joie, sur les lèvres ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Et il termine en disant, mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. C'est pas beau ça, frères et sœurs? Dans quelles circonstances David a écrit ce psaume? Il était dans le désert. Je ne sais pas si vous avez fait attention, quelquefois on chante des cantiques, on ne se rend même pas compte, mais le dernier cantique qu'on a chanté, l'avant-dernier tout au moins, il parlait bien de pouvoir s'attacher. Je me demande même si ça n'a pas été inspiré du psaume 63, dans le désert. Voilà cet homme bien qui s'efforçait de pouvoir chercher Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Je nous le dis, n'écoutons pas toujours notre corps, n'écoutons pas toujours les suggestions. Et sachons aussi discerner d'où viennent nos pensées, car quelquefois l'ennemi, tel des flèches, nous envoie des pensées qui sont négatives. Mais ayons une action, une démarche de foi, et même dans l'épreuve, arriver à déclarer « Alléluia » à Dieu notre Père. Alléluia. Eh bien, avec des cris de joie, lui dire « Seigneur, ma bouche te célébrera ». Il va dire au verset 7 « Lorsque je pense à toi sur ma couche, il est dans le désert, mes amis. » Il ne médite pas « Comment je vais faire pour sortir de cette épreuve, de ce désert ?» Non, il dit « Lorsque je pense à toi sur ma couche, il s'efforce, il impose à son âme de pouvoir se concentrer sur celui-là seul qui pourra le délivrer, alléluia, de son désert. Et mieux encore, il va dire au verset 9, « Mon âme est attachée à toi. » Qu'il pleuve, qu'il grève, que vous soyez en bonne santé ou malade, sachons dire comme David, « Mon âme est attachée à toi. » Voilà comment David exprimait sa relation avec Dieu. Toujours à chercher Dieu. « Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. » Mais je choisis néanmoins de te bénir, de te célébrer. Oui, il le dit, alléluia, je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom, car ta bonté vaut mieux que la vie. Et mes lèvres célèbrent tes louanges. Un autre exemple, et je termine par celui-là. David, en un mot, s'exerçait à la piété. En quoi faisant, il méditait bien sûr la parole de Dieu. Et là aussi, je voudrais vous citer un passage, un des psaumes, psaume chapitre 19, du verset 8 au verset 12. La loi de l'Éternel est parfaite, va dire David. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction, pour qui les observe, la récompense est grande. Et si David a pris le temps de pouvoir énumérer tous les bienfaits que peut apporter le livre des psaumes, croyez-moi, c'est parce qu'il l'avait lui-même expérimenté au travers de sa relation personnelle qu'il avait avec Dieu, au travers de ses méditations, au travers de la lecture de la parole de Dieu. Tu veux maintenir, entretenir ta relation personnelle avec Dieu? Prends ce temps, alléluia, face à la parole de Dieu. Prends ce temps, alléluia, pour pouvoir te laisser imbiber par cette parole puissante qui est capable de te communiquer la vie, mais aussi te fortifier dans ta foi. Et puis David faisait nombreuses prières. Vous savez que les Juifs, donc à l'époque, pratiquaient la prière trois fois par jour. Et il va dire dans le psaume 55, un dernier psaume, psaume chapitre 55, du verset 17 au verset 20, Et moi, je crie à Dieu et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis. Et il entendra ma voix. Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix, car ils sont nombreux contre moi. Dieu entendra et il les humiliera. Lui qui de toute éternité est assis sur son trône, car il n'y a point en eux de changement et ils ne craignent point Dieu. Même dans les moments difficiles, il continuait, il persévérait, il entretenait sa relation personnelle avec son Dieu. Alléluia, en déclarant les vérités, Dieu entendra ma voix. Et même si votre prière ressemble à des gémissements ou à des soupirs, Dieu eh bien, recueille ces formes de prière et il sait les traduire. Et il interviendra comme il est intervenu eh bien, pour notre ami David. Il n'y a pas que David, il y a même le roi Daniel. Il y a Daniel qui trois fois le jour s'appliquait à entretenir sa relation avec Dieu par le biais de la prière. Là aussi on peut lire Daniel chapitre 6 verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois le jour, il se mettait à genoux, il priait. Et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Il ne s'est pas laissé troubler par les mauvaises nouvelles. Il voulait entretenir sa relation avec Dieu. En conclusion, mon frère, ma sœur, je te repose cette question. Où en es-tu dans ta relation personnelle avec Dieu? Comment va ta relation personnelle avec Dieu? Et peut-être que ta relation, ces temps-ci, elle est quelque peu fragile. Peut-être que ta relation avec Dieu est difficile et même étiolée ou interrompue. Tu ne pries plus, et ça fait depuis des mois. Tu ne t'adresses plus à ton Dieu. Tu ne lis même plus la Bible. Tu n'en as même plus envie et tu as l'impression spirituellement de dépérir. Mon frère, ma sœur, Dieu t'appelle à relever la tête. Dieu te dit ce matin qu'il a le pouvoir de restaurer cette relation entre toi et lui. Un peu comme eh bien, cette relation qu'il a restaurée au travers de cette parabole que Jésus a apportée. Vous savez, l'enfant prodigue qui est parti loin, loin de son père. Il n'avait plus la relation avec lui. Et dans son bourbier, dans son péché, il est rentré en lui-même et il a pris une résolution, une ferme résolution. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Et Dieu te dit ce matin, reviens à moi, renoue contact avec moi. Oui, il y a eu ces fâcheux événements, oui, il y a eu ce péché qui a brouillé les pistes, mais mon enfant, je veux renouer avec toi, je veux eh bien retrouver cette communion, cette douce communion avec toi. Dieu est prêt à le faire, mais c'est à nous de décider. Que vas-tu décider, mon frère, ma sœur? Que le Seigneur nous aide à faire régulièrement le point sur notre relation personnelle, elle est vitale, primordiale. Au travers d'elle, eh bien, je peux écouter la voix de Dieu. Au travers d'elle, je peux me laisser conduire dans ses sages conseils qu'il peut m'apporter. Au travers d'elle, je suis fortifié, renouvelé. Je peux faire face eh bien, à l'ennemi. Au travers d'elle, je peux vivre une vie victorieuse. Et d'ailleurs, je crois, j'en suis convaincu que ce temps de jeûne et de prière va servir eh bien, à plusieurs à pouvoir renouer avec le Seigneur. Tu ne parles plus à Dieu, tu parles aux hommes. Tu cours, tu te bats d'une manière horizontale, mais tu as besoin de lever la tête et considérer que tout te viendra de celui qui est en haut et qui t'a aimé le premier. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci encore pour ce que tu as voulu nous dire ce matin. Et c'est avec amour que tu nous parles ainsi. Je sais que c'était la pensée que tu voulais donner ce matin. Et même si cela ne plaît pas au monde ténébreux, au monde spirituel, Seigneur, nous voudrions recevoir ce que tu veux nous dire. Tu nous as toujours dit la vérité et c'est toujours pour que nous puissions aller de l'avant. Seigneur, mon Dieu, ce qui nous rassure, c'est que ton cœur est débordant d'amour pour chacune de nos vies. Et tu sais, ceux et celles, d'une manière ou d'une autre, par les circonstances de la vie, connaissent des moments difficiles où leur relation n'est plus au beau fixe. Et aujourd'hui même, tu veux leur faire grâce. Aujourd'hui même, tu veux les toucher par la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui même, tu veux leur donner à prendre cette résolution et persévérer dans cette résolution. Et ne pas faire comme Saül, qui aurait dû persévérer. et qui s'est détourné définitivement de la relation qu'il avait avec Dieu pour se tourner vers des voies de traverse. Seigneur, fais grâce en ce matin.